La question du faire famille queer aujourd'hui, elle est posée, reposée de plein de manières. Elle est aussi assez médiatisée d'une certaine façon, mais ces familles, ou en tout cas ces parentalités, ces liens-là entre des personnes queer qui font communauté autour et avec des enfants n'est pas du tout récente en fait, et ça a une histoire, et je pense que c'est important de le dire, de le montrer, de le rappeler. Et aussi d'aller puiser un peu en fait dans cette histoire-là pour essayer de comprendre en fait, de ne pas reproduire certaines erreurs, certains fonctionnements, voire de s'en inspirer, mais en tout cas se dire que c'est quelque chose qu'on n'est pas en train d'inventer.
Bonjour à tous, je m'appelle Mal et bienvenue dans Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Lorsqu'on est queer, on s'est souvent vu refuser le droit de faire famille comme les autres. Que ce soit par des coming out qui ont déchiré notre propre tissu familial, des lois limitant ou interdisant l'accès à la procréation hors du sacro-saint couple hétéro-cisgenre, ou encore des siècles d'invisibilisation de nos identités, si bien que faire famille queer ne viendrait même pas à l'idée de certains et certaines, tant ces notions semblent lointaines, voire impossibles à s'approprier. Et pourtant, si penser à une famille queer semble vertigineux, c'est aussi car on fait face au champ des possibles, hors de la famille nucléaire, papa, maman, les enfants et le labrador. Ces modèles familiaux queer ont été invisibilisés, sont trop longtemps restés dans l'impensable, et si j'étais un peu taquin, je dirais même transparent. Heureusement, je suis bien entouré aujourd'hui pour penser la parentalité queer, car je suis en compagnie de Lucille Dumont et Lisa Durand. Donc vous co-organisez toutes les deux l'exposition nucléaire Parentalité queer trouble dans l'ordre patriarcal qui aura lieu à Paris au DOC à partir de ce 31 janvier. Une exposition qui s'annonce explosive rien qu'à l'affiche. On est face à cette photo de champignons atomiques avec des étincelles rose fluo, alors nucléaire comme la bombe nucléaire, nucléaire comme le modèle de famille duquel les personnes queer sont souvent exclues. Alors pourquoi ce titre ?
L'expo, elle vient notamment de la volonté d'avoir une réflexion sur la dimension visuelle des parentalités queer et la question de la visibilité, c'est-à-dire à la fois la nécessité de les rendre visibles et de réfléchir aux manières en fait dont on les représente. Je pense que ça s'insère aussi quand même un petit peu dans le prolongement du travail qui est fait par le compte Matergouinité dont tu t'occupes, Lisa.
Qui est un compte qui, du coup, montre la maternité lesbienne.
Ouais, et pas que. Enfin, du coup, il y a pas mal de photos, donc on essaye assez spontané, du coup, sur le compte Instagram, et il y a aussi tout un pan un peu plus théorique, ou en tout cas des écrits ou des extraits qu'on va chercher. Et du coup, il n'y a pas que des mères lesbiennes, il y a aussi des parents queer qui nous envoient, après c'est aussi en fonction des gens qui nous envoient les photos. Et j'avais aussi commencé à travailler sur une série avec Amélie Cabossel qui est questionnée. Toutes les photos autour de la grossesse qui sont toujours très stéréotypées, avec il y a toujours un caractère très féminin autour de la grossesse. Et donc voilà, du coup, il y avait aussi un peu au point de départ cette série qui avait été démarrée et l'envie d'enrichir avec d'autres photos et d'autres photographes pour du coup faire une exposition du coup collective avec d'autres regards aussi.
Et on aura l'occasion de reparler de. Dans très peu de temps, des stéréotypes justement associés aux grossesses avec le travail d'Amélie Cabossel. Est-ce que c'était difficile pour vous de trouver des artistes qui s'emparent du sujet, ou comment vous avez trouvé les artistes que vous exposez ? On a des artistes françaises et des États-Unis, c'est ça ?
Ouais. Donc là, Amélie Cabossel, c'est quelqu'un que du coup je connais. Les photos de Léa Devin, moi je les avais déjà vues. Parce que après, je suis aussi pas mal de comptes autour de parentalité queer. Donc j'étais déjà tombée dessus et voilà, j'aimais beaucoup son travail. Et après, les autres photos, ouais, c'est plus des photos, j'allais dire d'archives, mais c'est même pas d'archives, mais. Comment tu les qualifierais ? vrai.
C'est des photos plus anciennes, des photos de Saul Bamberger et Sandra Hoover, qui sont des photos qui ont été prises dans les prides de San Francisco dans les années 80-90 et qui ont une dimension plus... j'allais dire presque plus reportage, c'est pas vrai, mais en tout cas qui est plus prise sur le vif, que les autres ont un travail plus artistique, je pense, de la photo. Et peut-être que c'est ça aussi la différence, enfin en tout cas c'est là aussi peut-être pas forcément la difficulté de trouver des images de parentalité queer, de famille queer, etc., mais d'en trouver en fait, qui nous plaisaient et qui questionnaient un peu ces représentations d'une manière qui nous intéressait aussi, quoi.
Vous l'avez bien résumé, dans cette exposition, la lumière est mise sur les modèles de familles queer multiples qui bousculent les rôles et les imageries qu'on a tous en tête. Les thèmes abordés sont très variés. On explore la représentation de la grossesse queer et lesbienne avec la série d'Amélie Cabossel, Enceint, Enceinte. On plonge dans l'intimité d'une famille queer avec Léa Devin, sans oublier à chaque fois du contexte sur les luttes queer entre le passé, le présent et le futur. Devant cette pluralité de sujets, finalement, quelles étaient vos priorités dans le choix des œuvres? Est-ce que c'était plutôt sur de l'imagerie, plutôt sur du récit, montrer la diversité des récits ou un peu de tout?
Je pense qu'il y avait un peu de tout. Je pense que peut-être que ce qu'il faut qu'on mentionne, c'est qu'il y a aussi quelques archives dans l'expo qui sont tirées des archives lesbiennes qui sont conservées à Paris, qui sont... voilà, un petit peu des revues, des magazines français, américains, des textes qui circulaient à cette époque-là et qui, en fait, viennent un peu nourrir, je pense que, nourrir la dimension un peu sociale de ces images. C'est-à-dire ne pas s'en tenir aussi à avoir juste des je dis ça avec beaucoup de guillemets, évidemment, mais des images de parents, d'enfants, de grossesse, de famille, etc., mais essayer d'avoir un discours dessus, quoi.
On voit qu'il y a beaucoup de rapports à l'intime dans cette exposition, avec les photos de Léa Devin, qui sont très touchantes et authentiques, où on en est plongé dans le quotidien de cette famille que forment donc Léa Devin et son compagnon trans, Macaulay, et leur fils. Est-ce que c'était aussi une occasion de politiser un peu l'intime ?
Oui, clairement. Enfin, c'est quand même une ligne directrice de l'exposition, c'est sûr, et de la démarche dans l'ensemble. Sur le travail de Léa, je pense que c'est intéressant parce qu'elle a à la fois... dans son travail, il y a une dimension très esthétique et un discours politique aussi très clair sur la manière dont, justement... elle joue avec les codes des représentations familiales, avec les codes de la masculinité, avec les codes des relations parent-enfant, où en fait il y a certaines de ces photos qui parodient la famille nucléaire traditionnelle, justement, qui sont aussi assez drôles. Il y a une ligne de crête en fait quand même qu'elle parvient à tenir entre ce travail soigné esthétique et un discours politique sur en fait qu'est-ce que c'est pour nous d'être une famille queer et comment on se représente et comment on a envie de se représenter.
Notamment, sur le dossier de presse, on a une photo où il est avec son fils d'un air très imposant, mais à la fois, on sent quand même une tendresse entre eux, ce qui quand même joue avec les codes de les pères, le rapport père-fils, qui est très souvent dénué, en tout cas en représentation dénué de tendresse.
Le lobby. Tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Dans cette exposition, on a aussi un point de vue un peu plus historique, notamment avec le travail de Saul Bamberger, qui, comme vous l'aviez dit, photographie les premières Prides des années 80 aux États-Unis, sous un angle qui se veut très humain et qui tranche avec le sensationnalisme de la presse de l'époque. Et on y voit des parents... pas forcément queer, soutenir leurs enfants queer. C'était essentiel pour vous d'inclure ces perspectives historiques, voire quelques archives qui peuvent souvent manquer sur ces sujets
On y tient, moi j'y tiens beaucoup, je pense. Parce que je trouve aussi que ce qui est important, et ce qui à mon avis même est primordial dans tout ce travail et dans toutes ces réflexions, c'est de montrer que... la question du faire famille queer aujourd'hui, elle est posée, reposée de plein de manières. Elle est aussi assez médiatisée d'une certaine façon. Mais ces familles, ou en tout cas ces parentalités, ces liens-là entre des personnes queer qui font communauté autour et avec des enfants n'est pas du tout récente, en fait. Et ça a une histoire, et je pense que c'est important de le dire, de le montrer, de le rappeler. Et aussi d'aller puiser un peu, en fait, dans cette histoire-là pour essayer de comprendre, en fait, de ne pas reproduire certaines erreurs, certains fonctionnements, voire de s'en inspirer, mais en tout cas se dire que c'est quelque chose qu'on n'est pas en train d'inventer.
Et puis ces séries, on a aussi très envie de les mettre en parallèle avec le travail de Pauline Gower, qui va offrir un regard sur la patientèle de la maternité des Lilas, qui est en Seine-Saint-Denis, qui est très réputée pour la prise en charge respectueuse des personnes queer, qui était menacée de fermeture en juin 2023, et qui a bénéficié d'un soutien sans faille pour éviter sa fermeture. Est-ce que ces deux séries, elles peuvent nous dire quelque chose sur l'évolution des droits des familles LGBT à travers la lutte ?
En tout cas, elles sont l'occasion d'en parler. Et de prendre acte de certaines transformations, enfin que ce soit l'élargissement de l'accès à la PMA, le mariage pour tous avant ça, c'est les deux grosses avancées, même si elles sont évidemment incomplètes puisque les personnes trans n'ont pas accès à la PMA. C'est incomplet, mais ce sont quand même des choses qui, structurellement, juridiquement, modifient les structures familiales et qui sont perçues, saisies directement par des établissements comme la maternité des Lilas. Je pense notamment, dans le cadre de l'exposition, il y a une table ronde qui est prévue avec notamment la PGL, donc l'Association des parents gays et lesbiens, qui est une association qui a maintenant quand même une trentaine d'années, qui est aussi quelque chose dont on a du mal à se rendre compte, en fait, qu'il y a une asso institutionnelle qui est là maintenant depuis longtemps dans le paysage et qui fait tout ce travail et d'accompagnement juridique et de suivi des familles, etc., et qui est capable aussi un petit peu de percevoir ces transformations, je pense.
Effectivement, aujourd'hui en France, en termes un petit aperçu du chemin qu'on a fait, mais... énormément d'obstacles se posent face aux familles queer. On a eu tout d'abord le mariage pour tous en 2013, la fin de la stérilisation forcée pour les personnes trans qui désirent un changement de sexe à l'état civil en 2017, et enfin récemment la révision de la loi bioéthique en 2021 qui ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Pour autant, les grossesses trans et lesbiennes semblent encore dérangées, en tout cas dans les médias, qui voudraient les rendre invisibles de l'espace public. On peut penser aussi au tollé de l'affiche du planning familial qui montrait un homme enceint vers fin 2022, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que pour vous, cette acceptation des corps enceints dans toute sa diversité, elle doit d'abord passer par des représentations picturales ou artistiques ?
Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre ou dans quel ordre ça peut fonctionner, mais en tout cas les représentations contribuent à l'incorporation sociale, enfin à la manière dont on se saisit, dont on se familiarise avec toutes ces questions-là. Donc il y a, enfin je sais pas, pour moi un des enjeux c'est aussi de diffuser des représentations pour qu'on se familiarise avec certaines dimensions de ces questions.
En fait, plus largement sur le sujet des grossesses trans, on rappelle que la révision de la loi bioéthique exclut volontairement les personnes transmasques qui ont fait un changement d'état civil. Est-ce que cette exposition qui, du coup, offre de nouvelles représentations, elle pourrait, à force, peut-être sensibiliser un petit peu le public sur des inégalités juridiques ?
Je pense que le but, en tout cas, c'est quand même à minima d'ouvrir les discussions autour de ces questions-là. Et si ça peut être vecteur de sensibilisation, c'est un pari réussi, j'ai envie de dire. Après, sur cette question spécifique des grossesses trans, de l'accès à la PMA pour les personnes trans, etc., je pense qu'on n'est pas les meilleurs... interlocutrices, mais que ce serait bien que ça puisse servir à mettre en dialogue, à nourrir des discussions... autour de ces sujets, je pense.
Pour éventuellement rediriger vers des...
Rediriger, et puis que les personnes concernées s'y retrouvent serait la meilleure nouvelle, je pense. Je pense qu'une des idées directrices et de l'expo, c'est de faire communauté, de réfléchir aux enjeux qui nous lient, mais aussi de constater qu'on partage beaucoup de situations, qu'on partage beaucoup de problèmes, et qu'on a tout à gagner à la mise en commun, en tout cas, de ces enjeux, je pense.
Oui, en fait, il y a une portée assez énorme à cette exposition, parce qu'elle parle aussi bien, finalement, à des familles cis-hétéro et ou plus traditionnellement dans leur fonctionnement qu'à des personnes queer ou des familles queer.
Bah, je me dis, en tout cas, c'est pas pour eux qu'on a fait cette exposition. Mais si ça leur parle, tant mieux pour eux. Et si ça... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, le but... Enfin, j'ai l'impression que c'est... Mm-hmm. En tout cas, c'est plus pour nous en tant que communauté. Et en tout cas, c'est... Nous, c'est dans cette vision-là. C'est
de se faire public. Un espace plutôt.
Ouais, ouais. Ouais. C'est plus... Le but, c'est bien sûr que les parents puissent venir. Sinon, j'ai l'impression qu'on passe un peu à côté du truc. Et du coup, oui, donc il y aura le samedi 8 février, qui est du coup un peu... ça sera la journée de clôture, parce que ça sera l'avant-dernier jour, vu que ça se termine le 9. Il y aura des ateliers, il y aura... de la sérigraphie, la bulle qui va donc faire des ateliers pour les enfants, des lectures, une boum. Mm-mm. Il y aura de la barbapapa, il y aura plein de trucs et il y aura une table ronde.
À laquelle parleront donc des personnes donc de la PGL, de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, une personne du planning familial, des personnes du collectif queer et trans en soutien au Lila, qui s'était créé justement autour de ces mobilisations, et Anna Namekran, qui est toujours mère et lesbienne, issue de l'immigration et des banlieues, et qui était cofondatrice notamment de Femmes en lutte 93.
Merci Lucille et Lisa d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Donc je rappelle, l'expo nucléaire Parentalité queer, trouble dans l'ordre patriarcal est à voir du 31 janvier au 9 février 2025 au DOC, dans le 19e arrondissement. Cet épisode vous a été présenté par Mal et réalisé par Colin. Tous nos épisodes sont à retrouver sur Radio Campus Paris, à la page de l'émission, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À la semaine prochaine.